Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Bienvenue à l'épisode 2 de la chronique Une vie de langue. Aujourd'hui, je suis en présence d'un ami à moi, Christophe. Salut Christophe.
Salut Rémi, merci de m'avoir invité aujourd'hui.
Avec plaisir. Donc l'objectif, Christophe, c'est d'avoir une discussion un petit peu de ton parcours, de tes origines et des langues que tu parles. C'est un format très libre, d'accord. Toi et moi, on a déjà discuté au préalable pour le premier épisode de cette chronique. Mais moi, je voulais te donner la parole, te donner l'opportunité de t'expliquer avec tes propres mots, tes propres émotions sur le rapport que tu entretiens avec les différentes langues que tu parles. Donc moi, je vais poser une première question très simple. Bah, Christophe, d'où viens-tu et quelle langue parles-tu ?
Alors Rémi, donc je suis franco-indonésien. Par contre, je suis né, j'ai grandi et je suis allé à l'école en Allemagne. Donc je suis entre bilingue et trilingue en fait. On va peut-être dire bilingue et demi.
Ouais.
Parce qu'en fait, donc, j'ai donc grandi avec l'allemand, mais également avec le français, car pour chaque vacances d'été, par exemple, on partait donc chez mes grands-parents qui sont de Dijon,
okay.
Ce qui fait que j'ai quasiment grandi bilingue. Et comme l'indonésien, j'avais un peu du mal à le pratiquer tous les jours, on va dire, sur place. Donc ce qui fait que c'est la langue que je maîtrisais le moins. C'est pour ça que je dis toujours que j'en parle 2,5 en fait.
Ok. Et quels sont tes interlocuteurs ? Donc là, tu m'as parlé de tes grands-parents français, donc j'imagine que tu parlais français avec eux. L'allemand, tu le parlais avec qui ?
Donc l'allemand, je le parlais surtout à l'école, avec les copains et les copines. Et également avec mon père, avec ma mère, donc, qui est donc française, mon père est indonésien.
Ouais.
Donc c'est surtout avec ma mère que je parlais français.
Ok.
Donc elle s'est vraiment donné beaucoup de mal. Et j'en suis très reconnaissant maintenant, parce que ça a été quand même une fantastique opportunité de grandir vraiment carrément bilingue. Donc dès le plus jeune âge, elle nous a surtout parlé à ma sœur aussi, français à la maison. Et bizarrement, je n'ai pas de souvenir que ça a créé des complications ou quoi que ce soit. Bon, quand on est gamin, de toute façon, on arrive à aspirer les langues assez facilement. Donc c'était assez facile de switcher dehors, on va dire entre guillemets, à l'école et en jouant avec les amis, de parler allemand et de rentrer à la maison et de parler français.
Et tu as grandi où en Allemagne ?
À Hambourg.
D'accord. Et donc, est-ce que tu avais, à part ta maman, est-ce que tu avais d'autres interlocuteurs ou interlocutrices français à Hambourg ?
Hambourg, quasiment pas en fait, pas du tout. On n'avait pas d'amis français, vraiment. On avait quelques amis indonésiens. Donc là, j'avais l'occasion de parler un peu d'indonésien de temps en temps. Mais le français, c'était vraiment... Je parlais le français quand on partait en voiture de Hambourg.
Ouais.
Et à partir du moment où je traversais la frontière française, c'est à partir de là que je commençais à parler français, en fait.
Un switch linguistique.
Tout à fait.
Ok. C'est une bonne transition sur une question un petit peu plus profonde. Si tu pouvais me décrire ton rapport à ces différentes langues, peut-être principalement le français et l'allemand, qui j'ai l'impression sont les langues que tu parles le plus... Qu'est-ce que tu me dirais ? Et par rapport, je dis, ton rapport historique, émotionnel, une dimension familiale, personnelle, la fluidité, la confiance, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ?
Ben, l'allemand déjà, donc c'était déjà la langue à l'école où tous les cours étaient en allemand, donc il fallait bosser en allemand en fait, depuis le plus jeune âge. Et le français, ça a toujours été la langue des vacances, un peu du plaisir, et je pense qu'il y a même au niveau des caractères des langues, il y a un certain parallèle, que l'allemand c'est une langue très très précise, parfois presque scientifique. On a l'impression que par rapport au français, qu'en allemand il y a pratiquement un mot pour tout.
Okay.
C'est très précis, ou parfois le mot est tellement précis que pour le traduire en français, c'est impossible de le traduire juste en un mot. Il va falloir créer une longue phrase française. Donc la voilà. Et donc pour moi, la langue française, ça a toujours été quelque chose de plus lyrique, de plus poétique. On peut presque dire, c'est peut-être un peu limite de dire ça, mais bon, un peu moins sec et moins précis que la langue allemande, on va dire.
D'accord. C'est vrai que la dernière fois, tu me parlais de choses, de souvenirs assez intéressants quand tu visitais justement tes grands-parents à Dijon, c'est ça, en
c'est
Bourgogne.
Ça, c'est ça.
Et tu m'avais dit... à ce moment-là, je découvrais tout le vocabulaire floral qui décrivait la nourriture,
tout à
le
fait.
Vin.
Bon, évidemment, on est en Bourgogne, donc on mange bien, on boit bien.
Ouais.
Donc, c'est tout à fait typique aussi autour d'une table ou même si on est assis avec des amis ou la famille en France, on va quand même beaucoup parler de bouffe, ce qui est très, très rare en Allemagne. Déjà, il n'y a pas cette culture de la bouffe qu'en France. Le soir, on va plutôt manger un bout de pain avec un petit bout de fromage, un bout de charcuterie.
Ouais.
Et voilà, ce qui fait que pour moi, le français, c'était toujours parler de choses très agréables, des choses qui font plaisir, voilà, beaucoup plus que l'allemand en fait.
D'accord. Et aujourd'hui, quelle place occupent ces deux langues ? Tu habites à Marseille ? Est-ce que tu parles encore l'allemand de façon régulière, quotidiennement ou pas ?
Donc là, j'habite en France depuis quelques années, mais j'ai, pour des raisons professionnelles, beaucoup passé du temps en Allemagne et en France, ce qui fait que je n'ai jamais perdu l'allemand.
Ouais.
Et même maintenant, j'avoue que je parle allemand quand il y a des potes d'Allemagne qui viennent me rendre visite, ou si je vais encore à Berlin. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt dans un environnement vraiment français.
Ok. Donc tu ressens pas le besoin de devoir entretenir ton allemand ?
Non, ça se fait d'une manière plutôt naturelle. J'ai pas l'impression que je perds du vocabulaire ou de l'allemand. C'est tellement intégré en fait. C'est juste que j'ai remarqué que quand je change entre les deux pays, il se peut que j'ai 2-3 jours de latence où j'ai un petit accent toujours dans l'autre langue.
Ok.
J'arrive en Allemagne par exemple et tous mes potes me... C'est marrant un peu. Ils me disent « Ah oui, toi, tu as un accent français très intéressant. » Et le contraire, « Ah, bonjour, tu es de retour en France. »
Je vois. Voilà.
Mais ça se perd assez rapidement. En fait.
Oui, en plus, je sais que tu vas passer Noël à Berlin. Tu pars après-demain.
Oui, c'est ça.
Comment tu te sens par rapport à ce voyage ?
Moi, j'adore toujours retourner là-bas parce que j'ai quand même beaucoup de souvenirs. J'aime toujours beaucoup cette ville. Et... je le sens toujours très bien, en fait.
Génial. Et je t'ai pas demandé, mais tu as la binationalité, la française et allemande ?
Pas du tout, j'ai que la nationalité française.
Ok.
Parce que au moment où j'aurais pu choisir une binationalité, donc mon 18e anniversaire, à ce moment-là, c'était encore pas possible d'avoir la double nationalité entre la France et l'Allemagne, qui étaient toujours bizarrement des vestiges anciens de la guerre, etc., etc. Donc c'est très récent qu'on ait la possibilité. Mais en fait, je me disais que ça fait beaucoup de démarches administratives pour rien. Et je suis très bien avec ma nationalité française.
Ok. En ce qui me concerne, on m'a souvent demandé dans quelle langue je réfléchis, je rêve, je préfère parler, ou celle que je sais le mieux parler. C'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question. Je pense que ça dépend du contexte, des interlocuteurs. Est-ce qu'on t'a souvent posé ces questions ? Et si oui, qu'est-ce que tu réponds généralement ?
Oui, bien sûr, c'est toujours une question qui se pose pour les bilingues. Et je pense comme j'ai donc été à l'école en Allemagne et pour tout ce qui est écriture, etc., que je suis peut-être un peu plus à l'aise en allemand pour vraiment écrire, par exemple. Comme en plus pour le métier, je suis producteur audiovisuel et j'écris un peu aussi mes sujets. Par contre, pour trouver les idées, pour les conceptionner dans ma tête, bizarrement, je réfléchis en français. C'est assez bizarre à expliquer, mais donc je prévisualise l'écriture en français dans ma tête, mais après pour le mettre sur le papier, ça va être plus facile en allemand, bizarrement.
Ok. Voilà. Et tu as déjà reçu des tensions entre ces deux langues, notamment dans le contexte du travail ou pas ?
Non, pas du tout. C'est plutôt un avantage, en fait. Vraiment plus qu'une tension, non, je ne peux pas dire que c'est le cas, vraiment.
En termes d'avantages, on peut penser que le fait de parler deux langues ou d'être binational apporte une plus grande ouverture au monde. Quelle est ton opinion sur cette idée ?
Je pense que oui. Bon, c'est pas... pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais je pense que le fait que le cerveau est occupé à passer d'une culture aussi qui est attachée à la langue à une autre, peut certainement ramener à une ouverture d'esprit d'une certaine manière, effectivement.
Tu m'avais parlé d'une anecdote assez intéressante sur un moment de tension entre ton identité française et allemande.
Donc oui, les moments de tension, comme je disais, maintenant ce n'est plus trop le cas, c'est plutôt assumé. Mais il faut avouer que dans la jeunesse, la tendre jeunesse, ça ne peut pas être le cas tout le temps, comme on est encore en quête d'identité, etc., etc. Et donc, quand j'avais 10 ans, j'ai eu une soirée ou une journée assez traumatisante, presque à ce niveau-là. Donc, on est donc en 1982, et il se trouve que j'assiste à la demi-finale de la Coupe du Monde de foot entre la France et l'Allemagne. Et donc là, c'était la question qui se posait, je suis pour qui ? Pour les Allemands, pour les Français, je ne sais pas trop. Bon, j'aimais bien Platini, donc j'étais plutôt français. Le match se passe très mal, ceux qui se sont au courant, donc il y a eu des grosses catastrophes et finalement la France a fini par perdre. Ce qui m'a fait un gros choc et j'ai eu vraiment du mal quelques jours ou même des semaines à me remettre d'accord sur mon identité vraiment. Parce que là, je suis en Allemagne, tous mes potes sont allemands, je parle allemand, mais... Enfin bref, c'était quelque chose d'assez perturbant. Et voilà, qui a peut-être fait pencher un peu, tout petit peu la balance vers la France.
Ouais. Non, mais c'est fascinant sur des sujets notamment sportifs. Moi, c'est quelque chose, j'en avais un petit peu parlé lors du premier épisode, lors de la Coupe du Monde de rugby de l'année dernière, le match France-Afrique du Sud. Je suis à la plaine avec mes potes, on regarde le match et quand il s'agit de rugby, je ne peux pas m'empêcher de soutenir l'Afrique du Sud.
Ah bah voilà.
Parce que c'est un pays où le rugby a pris une dimension mais beaucoup plus importante que le sport et j'ai parfois du mal à l'expliquer pourquoi la Coupe du Monde se déroule en France et c'est l'année où les Bleus doivent la gagner. Mais c'est pas si simple que ça pour moi. Le rugby, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le rugby. Et ça me renvoie, en fait, ça me permet de me sentir de nouveau sud-africain.
Là, je te comprends très bien.
Et pour moi, ça ne faisait aucun doute que je devais soutenir les Springboks qui, à mon plus grand bonheur, ont remporté cette Coupe du Monde. Mais qui ont aussi battu les Bleus en quart de finale, je crois. Mais bon, excusez-moi pour tous mes amis français qui avaient un vrai dégoût suite à cette défaite. Mais super belle anecdote sur cette demi-finale de Coupe du Monde. Moi, ce que je vous propose, l'idée aussi, c'était que tu nous fasses découvrir un petit peu des références culturelles allemandes. On va faire une petite pause musicale, mais j'aimerais peut-être que tu nous présentes. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Also, ich habe ein kleines Stück Musik für euch. Das heißt Mein Herz schlägt schneller von den 5 Sterne Deluxe, eine Band aus Hamburg. Und das waren die Anfänge des Hip-Hops in Deutschland 1995. Donc ça va être un morceau qui s'appelle Mein Herz schlägt schneller, ce qui veut dire Mon cœur bat plus vite, d'un groupe de Hambourg de 1995, les 5 Sterne Deluxe, qu'on pourrait considérer comme un des débuts du hip-hop allemand pour le grand public. Und hier ein bisschen was für euch. Selber Beat. Hier kommt die Band, die bald so bekannt ist wie Negerkalle auf dem Kiez. Hamburg, das ist richtig, wir haben die fetten Beats. Das ist sicher, wie angeln mit der Banjo El Ritze. If you need a fix, baby, hier ist deine Spritze. Unsere Skills kommen edel wie ein kühles Holzen. Das ist unser Pilz und das knallt am dollsten. Wir Sellout, nicht dass ich wüsste. Ich weiß nur, da geht was bei uns an der Küste.
Cool wie Kühlung, Flows kommen frisch. Nenn uns Odol, die Ohren Spülung. Mit Beats treiben wie Aerosol. Viel Soul aus meiner Seele für den Style. Warum der so geil ist, bleibt geheim wie eine Ex-File.
Frag Fox Mulder und Dana Scully. Die werden dir bestätigen, dass wir uns auf diesem Beat verewigen. Als wären es unsere Namen auf dem Broadway. Mein Rap kommt cool, wie der von John Forte.
Wir wickeln dich um den Finger wie ein Schneidergarn. Transportieren dich besser als die Deutsche Bundesbahn. In Orte, von denen du nie glaubtest, dass es sie gibt. Mit einem Lied. Und da das von uns ist und da das unsere Kunst ist. Und jede Sekunde von diesem nach unserem Wunsch ist, sind es wir, die ihr hört, seht und fühlt. Bohr ein Loch in deinen Kopf und dann wird gespült.
Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Deine Boxen brennen durch, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. 5 Sterne Injektion, Deluxe am Mikrofon. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Deine Boxen brennen durch, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. 5 Sterne Injektion, Deluxe am Mikrofon. 1, 2, 3 bis hin zur 4. 5 Sterne Deluxe sind an deiner Tür, bereit für den
Eintritt, also mach Platz. Es stimmt, dass unser Scheiß fett ist, nicht nett ist, sondern derbe. Albert Einstein ist tot und wir haben sein Erbe.
Untergraben den Verstand und knacken die Synapse. Wenn wir weiter so machen, land ich bald selbst in der Klapse. Ich bin verrückt nach 5 Sternen des Teils und Skills, denn daran sind wir reicher als ganz Beverly Hills. Ich bin verrückt nach Deluxe Styles und Skills, denn daran sind wir reicher als ganz Beverly Hills. Bitte Baba.
Relativ geschickt, schick Bo, schicke Grüße an die Schickeria. Mir ist klar, dass ihr auf uns abfahrt, ihr habt auch schicke Skier. Doch Dynamite Deluxe, Doppelkopf, 5 Sterne, ABs und 1-2 sind im Norden verantwortlich für ein hohes Niveau. Aber cool sind auch der Süden, der Westen und der Osten. Hört ihr unsere Beats, fragt ihr nur, was sollen die kosten? Na mindestens genauso viel wie Kate Moss ihre Knochen.
Ok, merci Christophe pour cette musique. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai rien compris, mais j'ai aimé. Faudra peut-être que tu me fasses une traduction des paroles, des lyrics. On a beaucoup parlé du rapport avec le français et l'allemand, mais comme tu disais au début, tu es bilingue et demi. Il y a aussi une langue asiatique, une connexion asiatique qui fait partie de ton identité, en l'occurrence l'Indonésie et l'indonésien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors l'indonésien, qui est une langue assez spéciale, car elle a été créée entre guillemets artificiellement à la création de la nation indonésienne après la colonisation. Comme en Indonésie, il existe quelques centaines d'ethnies qui parlent autant de langues, donc pour assurer d'un côté une identité nationale, mais aussi juste pour que les gens puissent se comprendre, on a donc inventé cette langue qui est basée sur du malais, juste d'une manière très simplifiée, où par exemple, il n'existe quasiment pas de grammaire, il n'existe pas de temporalité, etc., etc., pour exprimer une temporalité, on va dire faire aujourd'hui, faire demain, faire hier, ou même pour le pluriel, par exemple, il n'existe pas de pluriel. Pour exprimer le pluriel, on va juste répéter le mot. Donc, pour dire plusieurs, enfin, bouteille au pluriel, on va dire bouteille, bouteille. Et il y a même des combinaisons où, si vous dites arbre, arbre, ça peut dire plusieurs arbres, mais ça peut dire aussi forêt.
Wow.
Et par exemple, un autre exemple, c'est le verbe marcher qui est jalan.
Jalan.
Mais ça peut dire rue également. Mais quand vous dites jalan, jalan, c'est une promenade.
Ah, je pensais que c'était courir.
Non, mais là, c'est promenade.
D'accord. Voilà.
Donc là, c'est une langue plutôt basique que j'ai malheureusement perdue au fil des années. Mais à chaque fois que je retourne en Indonésie, cette langue me paraît quand même très, très familière. Enfin, le son me paraît familier. Ou même si je me balade, même à Marseille, parfois, j'entends dans mon dos de l'indonésien. Je me retourne, effectivement, je vois des touristes indonésiens qui se baladent dans le vieux port.
Cette année, tu as fait un long voyage en Asie.
Exactement.
Comment tu t'es senti en Indonésie, notamment?
Tout est très familier, en fait. Entre le son de la langue, les odeurs, le comportement des gens. Et comme la langue est tellement simple, ça m'est revenu, pas complètement, mais effectivement, après 2-3 mois, j'arrivais quand même à tenir des mini-conversations, pas des grandes conversations.
Génial. Ben un grand merci Christophe, c'était super intéressant.
Avec grand plaisir, merci.
Merci pour ta participation, pour ton partage. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et puis j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
Bonne fête de fin d'année, merci Rémi.